curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Bon, premier sujet pour les commissaires ce matin. Est-ce que le ministre de la Santé, Christian Dubé, a raison d'aller vers le privé, d'aller chercher des top guns, comme il dit, pour diriger la future agence de la santé? Nathalie.
Bien, le ministre de la Santé a tort avec son agence de la santé. Selon moi, il rate sa cible. Et je dis ça avec tout le respect que j'ai pour Christian Dubé, que les Québécois adorent, aiment bien. C'est un ministre en qui on a confiance. Il nous a proposé il y a un an un beau gros plan, mais de ce plan, il y a une dimension qui est liée à la dépolitisation des décisions qui sont prises dans le système de santé. En fait, le premier ministre a comparé cette future agence Santé Québec, parce que c'est pour ça que le ministre des Finances veut recruter des top guns là, dans le secteur de privé pour faire fonctionner cette hydro-santé. Le premier ministre a comparé cette future agence à Hydro-Québec. Mais je regrette, là, vendre de l'électricité, en produire puis en distribuer, ça n'a absolument rien à voir avec le fait d'offrir des services en santé. Un, et deuxièmement, on peut-tu arrêter au Québec d'investir nos milliards, nos millions dans les structures? Est-ce qu'on peut investir dans les services? Combien ça va nous coûter ces top guns? Il y en a besoin de 7-8, là. 600 000. Le futur PDG, là, le méga PDG là, de cette méga structure, il va coûter quoi par année en salaire? 600 000, 700 000 $? Écoute, tu les attireras pas avec des peanuts, là. On s'entend, là. Ça va prendre. Il faut que tu mettes beaucoup, beaucoup d'argent sur la table. Alors, moi, je vous dis, si on veut dépolitiser le système de santé, pas besoin de créer une autre structure. Ce qu'il faut faire, c'est faire confiance au PDG de CIUS et de CIS, leur donner de la latitude dans leurs décisions, dans leur gestion au quotidien et décentraliser cette fameuse prise de décision.
Le ministre de la Santé est pris avec un dilemme. Il faut qu'il fasse comprendre aux Québécois que les choses avancent alors qu'elles n'avancent pas très vite. C'est normal. Quand tu fais des embauches, quand tu dis que tu vas procéder à des transformations, accueil en première ligne, etc., ça prend des mois et des mois et des mois à s'installer. Fait que là, tu es obligé de faire des fois des déclarations fracassantes pour montrer qu'il se passe de quoi, tu sais. Mais celle-là de déclaration fracassante, on va pouvoir la ranger dans la poubelle de l'histoire, là. Et plusieurs choses. D'abord, le jeune président de la Banque nationale du Québec, là, la Banque nationale, a eu sa rémunération il y a 3 semaines, c'était 11 millions de dollars. Lui, c'est un top gun. C'est des gens qui sont payés au bonus. C'est des gens qui sont payés au résultat. Il y a eu 11 millions. Toi, tu dis, ben, Nathalie, ben, on va offrir 600 000?
Ben, c'est le salaire de la PDG d'Hydro-Québec. Là.
Bon, ben, écoute, t'auras ce que t'auras, là. Fait que... Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cette idée de dépolitisation. Hey, écoutez, prenez-nous pas pour des oignons, là, je veux dire. Regardons les événements là, des 6 dernières semaines. Fait juste 6 semaines. Là. Il y a eu en éducation, là, ce gars qui a dit, ben, j'ai pas de ressources, je vais mettre sur pause le déploiement des maternelles 4 ans. Le ministre a réagi dans l'après-midi. Après ça, on est dans l'éducation, mais je vais donner des exemples dans tous les domaines. C'est éducation santé. Après ça, tu as eu les 22, le 6 de Montréal, non, le centre de services de Montréal qui a dit, bon, on va revoir la tâche de 22 orthopédagogues. Boum! Le ministre de l'Éducation a rebondi. Dans la santé, toutes les sorties de l'infirmière, les infirmières de Maisonneuve-Rosemont, qui ont dit qu'on a une gestionnaire qui est pas bonne. Dans l'après-midi, le ministre est intervenu en disant, oui, puis on va voir ça, etc.
Ben oui.
Ensuite de ça, tu as eu la ministre du Trésor qui a déclaré qu'elle voulait faire des forums pour discuter à long terme de l'organisation du travail. Les syndicats, ils ont dit, il n'y en a pas question, nous autres, on veut travailler ça aux tables de négociation. Après ça, tu as les tâches des infirmières spécialisées versus celles des médecins, ça a dû être révisé par une loi. La marge de manœuvre des CIS et des CIUS dans l'utilisation des agences privées, ça fait l'objet de déclarations du ministre au quotidien. La gestion des horaires en Mauricie, avec il avait décidé qu'il les obligerait à faire une fin de semaine de travail sur 3, d'une part et d'autre part, qu'il y aurait des affectations obligatoires dans les CHSLD ou dans les hôpitaux, en tout cas du mouvement de personnel. Ça a fait l'objet d'une grève éclair, une grève du zèle, puis une déclaration du ministre, puis une couverture médiatique. Chaque jour dans la santé, on a la démonstration qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. La moindre marge de manœuvre donne soit lieu à une résistance syndicale, soit lieu à une intervention gouvernementale. L'agence de santé ne va rien changer là-dedans.
Exactement. En fait, Luc s'est changé 4,30 sous pour une pièce. Là. Que ceux qui veulent une autre structure dans le réseau de la santé lèvent la main. Ah non, mais il n'y a personne qui va lever la main parce que c'est ça, là. On veut créer une autre structure parallèle à celle du ministère. Le ministère de la Santé, c'est 1800 fonctionnaires. 14 sous-ministres. On va faire quoi avec la nouvelle structure? Est-ce qu'on va prendre la moitié des fonctionnaires du ministère de la Santé dans le mammouth, comme tu l'appelles si affectueusement, Paul, puis on va les transférer dans cette nouvelle, dans ce nouvel hydro-santé? Qu'est-ce qu'on veut faire exactement? Moi, je suis renversée. Le ministre veut déposer son projet de loi la semaine prochaine qui va créer cette agence de la santé, cette agence Santé Québec. On ne sait pas qui va la diriger. On ne connaît pas la structure, puis il veut que tout ça soit opérationnel l'an prochain. On est en train de se faire, les amis, là.
Ben oui.
Comment on dirait ça?
D'autant plus que Legault, après tous les éléments qui se sont passés où il y avait des décisions qui avaient été prises par des gestionnaires qui jugeaient valables, Legault a déclaré il y a 10 jours ou 2 semaines, va falloir qu'on resserre un peu ça, là, puis que les décisions se prennent au cabinet. Puis il va falloir qu'on s'en mêle un peu plus.
Ben,
il a déclaré ça.
Exactement. Alors, mais le temps qu'il va y avoir un ministre de la Santé, ben il va avoir des... Ben voilà. Le ministre va se mêler de la politique.
Ce qu'il a dit, là, sauf erreur, c'est le ministère pour établir les grandes politiques... puis l'agence pour opérer le réseau.
OK, ben d'abord, j'ai une question pour lui. Il y a 2 semaines, il y a même pas 2 semaines, il y a un hôpital privé qui voulait ouvrir ses portes. Ça faisait 18 mois qu'il attendait son autorisation. Ouais. Il attendait pas son autorisation parce que les fonctionnaires l'avaient laissé le papier dans un coin. C'est parce qu'il avait été analysé par les fonctionnaires en fonction des directives qui leur avaient été données, puis ils donnaient pas l'autorisation. Là, le ministre, dans l'après-midi, il a dit non, on donne l'autorisation. Fait que ça, là... Quand tu dis qu'il va donner ce pouvoir-là opérationnel à des fonctionnaires qui seront loin de lui, là, je n'y crois pas.
Mais juste te dire, puis je te laisse la parole après, Nathalie. Moi, c'est, tu comprends, tu sais que je suis tordu de nature. Là. Puis là, je me dis, il offre...
On l'avait pas remarqué.
Non, je sais. Il offre le poste de PDG à des Top Guns. Il cherche des Top Guns, OK, des gens du secteur privé. Tu sais qu'il y a des fonctionnaires, des sous-ministres qui ont dû lever la main pour dire, nous autres, ça nous intéresse d'être PDG de l'agence.
Bien sûr.
Ils viennent de se faire dire que ça ne sera pas dans leur cours. Quelle sera l'attitude de ceux et celles qui auront été tassés? Vont-ils collaborer à l'implantation de l'agence ou crisser des bâtons dans les roues?
Oui.
Tu comprends?
Au Top Gun.
Écoute, moi, c'est la première affaire que je me suis dit.
Non, mais l'autre affaire, Paul, c'est intéressant ce que tu soulèves. Tu as tellement raison. Un Top Gun qui arrive du secteur privé, là, il va avoir un méchant choc sur le plan culturel lorsqu'il va faire face à ce monstre qu'est le ministère de la Santé, là, parce que les codes, la culture de l'appareil administratif au Québec est très différente dans le secteur du secteur privé, là. D'ailleurs, il y a une auditrice qui nous écrit au moment où on se parle, elle dit, est-ce que les nouveaux Top Gun seront des amis de Pierre Fitzgibbon? Point d'interrogation. Elle le dit, là, sans aucun...
Dans le monde des affaires, il est ami avec tout le monde. Fait que c'est sûr que ça va être quelqu'un.
Voilà. Non, mais un commentaire, Luc, puis je te laisse la parole par la suite. Là, on s'entend tous pour dire qu'effectivement, on y trouverait notre compte si on dépolitisait la structure, le ministère de la Santé. Mais il y a d'autres moyens de le faire que celui qu'utilise le ministre de la Santé ou que veut utiliser le ministre de la Santé.
Luc, tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison en disant qu'il va y avoir de la résistance des fonctionnaires. Les fonctionnaires qui travaillent là depuis 20 ans, 25 ans, qui ont monté dans l'appareil, là, ont des compétences extraordinaires. Une des compétences extraordinaires, c'est d'être capable de travailler avec des contraintes qu'ils n'ont pas dans le privé. Comme par exemple, des conventions collectives mur à mur, des décisions du ministre qui contredisent la décision de la semaine précédente, mais disent oui monsieur, puis ils l'appliquent à toute vitesse, puis ils sont bons pour l'appliquer à toute vitesse, là. Ils sont performants. Des pressions des médecins, de la FMOQ, de la Fédération des médecins spécialistes, etc. Ce sont des Top Guns. Simplement, ils ont été obligés de travailler dans un contexte particulier, et ce contexte-là va pas changer. Le Top Gun qui va arriver du privé, là, premièrement, c'est facile à reconnaître. Hein? Une chemise de fonctionnaire, ça coûte à peu près 100$. Une chemise de cadre, ça coûte 300$. Une chemise de consultant, ça coûte 600$. Facile à reconnaître.
Et le Top Gun, c'est combien?
Ben, c'est ça. C'est cher en simonac. Mon père, il va arriver là avec son soute, lui. Ou elle, va arriver avec son soute.
Je vais avoir un choc.
Là, elle va dire, OK, on fait ça après-midi. Ben, premièrement, il ou elle va être accusé de harcèlement psychologique. Deuxièmement, il va se tromper 3/4 du temps parce qu'il va avoir fait des demandes qui sont conventionnées et que tu peux pas le faire. Moi, je me rappelle, dans la fonction publique montréalaise, constamment ça arrivait. Quelqu'un, ah, oh, je vais changer ça. Ben oui, tu vas changer ça. La convention collective te l'empêche de changer ça.
Non, mais Luc ajoute à ça le Conseil du Trésor. Ils vont apprendre à connaître le Conseil du Trésor. Ouh, bienvenue dans le club.
On s'arrête pour la pause au retour. Le fameux rapport du GIEC a été présenté hier. Ce qui reste vraiment une fenêtre d'opportunité pour agir sur les changements climatiques.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, le GIEC prétend qu'il y a encore une fenêtre d'opportunité pour agir sur les changements climatiques. Est-ce qu'on doit croire à ça, Luc?
Non. Malheureusement, il n'y en a plus de fenêtres. Le GIEC ne peut pas l'avouer, là, mais quand j'ai commencé à m'intéresser à l'environnement, je travaillais dans un centre de recherche sur l'environnement. Moi-même, je n'étais pas un spécialiste, mais il y en avait beaucoup autour de moi. En 1990, on estimait que ce serait 1,5 degré en 2100. Là, le GIEC a annoncé que ça pourrait être en 2030. Une méchante différence.
Ça, c'est demain.
Ben, c'est franchement demain, là. 2030, ils ont dit peut-être 2035. En tout cas, ça marche avec des probabilités, 50% de probabilité que ça soit de 2030 à 2035, des choses comme ça. J'aimerais ça faire un petit peu de pédagogie là, pour que les gens comprennent, parce que tu dis, ah, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Ben, regarde dehors, on la voit pas, la fin du monde, si on est en mars puis il fait froid, là, comment ça se fait que...
C'est le printemps depuis hier.
Ben oui, c'est ça. Et où la fin du monde? Bon. Premièrement, faisons l'analogie avec les cellules cancéreuses. Le carbone dans l'atmosphère, c'est comme les cellules cancéreuses. T'as 10 cellules cancéreuses, ben non, t'en as 100, ça change rien. T'en as 1000, ça change rien. À un moment donné, il y a un seuil. Oups, tout à coup, il y a un œil qui te ferme à moitié. Oups, tout à coup, t'as ton petit doigt qui arrive pas, t'arrives pas à le plier. Oups, tout à coup, t'as des infections urinaires à répétition. Ah, là, t'es peut-être rendu, c'est là qu'on est rendu, là. Mais quand ça continue d'augmenter, l'impact est beaucoup plus rapide que toute la période entre le moment où c'est apparu puis le moment où ton œil a fermé à moitié, là. Après ça, ça va aller vite. Ça va aller beaucoup plus vite. Ça s'appelle un effet exponentiel. Un effet exponentiel, là, pour donner un autre exemple de ça, c'est que c'est quelque chose qui double à tous les ans. Ton anniversaire, tu passes de 33 ans à 34 ans. Si c'est un effet exponentiel, tu passes de 33 ans à 66 ans. C'est ça un effet exponentiel. C'est que ça double à tous les ans. Et les impacts vont doubler comme ça, de façon très rapide. Si on arrive à 2 degrés, à 2 degrés, là, c'est 800 millions de réfugiés dans le monde. 800 millions. En ce moment, il y en a à peu près 10 millions. Tu sais, t'entends parler des réfugiés tous les jours, là. Il y en a à peu près 10 millions. Mais ça, 800 millions, voire. Combien de personnes vont se présenter à la frontière du Mexique? Combien de personnes vont se présenter aux frontières de l'Europe? Combien de personnes vont se présenter au chemin Roxham? Des chemins Roxham, ils vont en avoir 50. Ils vont en avoir 50, puis ils vont être multipliés par 10. Ou alors, on va toujours mettre des murs, des miradors, des barbelés. C'est ça. C'est ça qui s'en vient devant nous. Mais on n'est pas capable de le gérer parce que c'est trop gros, c'est trop... On se dit c'est loin, c'est pas si loin que ça. Mettons que nos enfants vont vivre ça, d'une part. Puis d'autre part, quand c'est gros, il faut que tout le monde change en même temps. Donc on se dit, ben si la Chine, puis la Russie, puis l'Arabie saoudite, puis l'Inde ne changent pas, pourquoi est-ce que nous, on changerait? Ça va changer quoi? C'est ça notre raisonnement. Donc on change pas. Puis donc on s'en va toute la gang dans le mur.
Ouais. Hier, le grand patron de l'ONU a déclaré, il a des phrases de choc, M. Guterres, il a déclaré « La bombe à retardement climatique fait tic-tac ». Et en parlant du sixième rapport du groupe du GIEC, il a dit « C'est un guide de survie pour l'humanité ». En fait, toi, Luc, tu es plutôt pessimiste sur la suite des choses, mais eux, ils disent « Il y a encore espoir d'y arriver, mais encore faut-il que les décideurs appuient sur l'accélérateur ». D'ailleurs, ils ont préparé un document destiné aux décideurs parce que ce sont les décideurs, d'une certaine façon, qui ont la clé de notre succès ou insuccès par rapport à la suite des choses. En 2050, il faudra, selon les experts du GIEC, avoir réduit nos émissions de 50 %. C'est énorme. Ça, c'est dans 27 ans. Dans 27 ans, Paul, tu vas avoir quel âge? 89 ans. Luc, tu vas avoir 87 ans, 88 ans. Est-ce qu'on va être là tous ensemble pour sabrer champagne et célébrer l'arrivée de ce temps nouveau? C'est sûr qu'on est sceptique aujourd'hui parce que on est appelé dans l'histoire de l'humanité. En fait, c'est le plus grand défi d'adaptation qu'on a eu, qu'on a à relever dans l'histoire de l'humanité. Et tu faisais une comparaison avec le cancer. Ben, je vais vous donner quelques chiffres pour vous démontrer à quel point, en très peu de temps, on a créé une pression absolument incroyable sur la planète. Entre 1700 et 2022, la population mondiale est passée de 600 millions d'habitants à 8 milliards d'habitants. Et depuis 1800, la population urbaine est passée, elle, de 10 % à plus de 50 % de la population mondiale. Et qui dit urbanisation dit aussi pollution. Ce que le GIEC nous demande concrètement de faire, c'est sortir du pétrole et du charbon. Ça fait longtemps qu'ils nous disent. Et ça fait 35 ans passant que le GIEC écrit sur les changements climatiques. Moins prendre l'avion, manger moins de viande, mettre fin à la déforestation. Si ce rapport-là nous permet de faire une introspection, chacun d'entre nous, on se dit aujourd'hui, OK, parfait. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour changer mon comportement? Mais de façon appréciable et notable pour faire une différence sur l'environnement, là, une différence réelle, d'après moi, on ne sera pas très nombreux à répondre positivement.
Mais non. Puis quand tu regardes ce qui se passe dans le monde, tu dis, ben moi, ça me donne quoi de le faire? Personnellement, tu sais, je vous en veux pas ni l'un ni l'autre, là, mais de nous trois, je suis le seul qui a fait des gestes vraiment structurants. Pas de voiture, petit appartement, pas de voyage. Ben, je t'avais d'arrêter. Je t'avais de lâcher. Parce que ça donne rien. Puis j'avais dit, je l'avais dit pour le recyclage il y a quelques années, hein, puis mm-hmm. multiples rapports qui m'ont donné raison par la suite. Même chose, là, je t'avais de dire, ben regarde, je vais arrêter de faire des efforts tout seul dans mon coin, là, parce que, premièrement.
Ben, t'es pas tout seul qui en fait.
Non, je sais, mais regardons seul. Les choses. Il y a quelques pays richissimes qui arrivent à faire des vrais changements, la Norvège. Il y a des pays qui sont aux prises avec des gros, gros, gros impacts en Europe, par exemple, une sécheresse épouvantable. Eux autres sont vraiment sensibilisés. Le Royaume-Uni, la France, etc. Mais nous, ici, au Québec, là, c'est zéro pin bar, là. Zéro pin bar. Quelques éléments. Le ministre, le GIEC, c'est un organisme, c'est un groupe d'experts très conservateurs. Les gens ignorent ça. Hein. Ce sont des gens qui embellissent la situation. S'ils sont en train de te dire ça va brûler, là, ils ont tellement tort. C'est tellement plus rapide que ce qu'ils disent. Parce que là-dedans, c'est des milliers d'experts, puis ils s'entendent. Il faut qu'il y ait un consensus. Puis le consensus se fait au plus bas dénominateur commun. Mais c'est pas le GIEC qui mobilise la population, c'est les COP. Donc le GIEC a pris une décision, a fait un rapport là tout de suite. La COP qui va avoir lieu en Arabie Saoudite en décembre.
La COP, c'est politique. C'est,
ben, c'est ça.
Politique,
là, en décembre, les gens vont dire voici ce qu'on fait avec le rapport du GIEC. En ce moment, l'Arabie Saoudite est à la manœuvre pour réduire l'impact du rapport du GIEC en disant « Wow, 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 arrêtez de parler du pétrole. » Le roi d'Arabie Saoudite veut investir 600 milliards de dollars dans le pétrole dans les prochaines années, alors que le GIEC dit qu'il faut arrêter immédiatement d'investir dans le pétrole puis il ne faut pas développer. Le Canada, la semaine passée, Stephen Guilbeault a donné l'autorisation pour une nouvelle usine de GNL. Après ça...
T'oublies Biden avec
Biden en Alaska. Biden en Alaska. Pourquoi? Parce que l'Arabie Saoudite est en train de se rapprocher de l'Iran, puis de la Russie, puis de la Chine. Donc, il dit, hey, il faut qu'on développe notre propre pétrole. Il fait drill, baby, drill. Sarah Palin qui avait dit, il est en train de faire ce que Sarah Palin avait dit qu'il fallait faire. Donc, on est au yob.
Oui, mais n'oubliez pas que, par exemple, le conflit en Ukraine, parce que le conflit en Ukraine est venu chambarder l'agenda climatique. Et, par exemple, là, parce que l'Europe manque de gaz, là, ça force d'autres États à fournir l'Europe, par exemple, en gaz naturel. C'est pour ça que le chancelier allemand est débarqué au Canada pour dire au Canada, pouvez-vous nous fournir le gaz dont on a besoin pour moins dépendre de la Russie? Alors, les conflits dans l'histoire de l'humanité sont venus plomber. Puis là, je parle de la guerre en Irak, on pourrait parler d'autres conflits qui sont venus plomber nos efforts pour améliorer notre réduction de gaz à effet de serre. La pandémie aussi est venue plomber tous nos efforts. Alors, c'est pas simple, là. C'est vraiment pas simple. Quand j'ai ces plus grands défis d'adaptation auxquels on est confronté depuis la révolution industrielle, ça fait quoi, depuis 220 ans qu'on a opéré cette grande révolution industrielle, mais là, on a un très, très court laps de temps pour y arriver. Alors, je partage en partie ton pessimisme, Luc, mais le rôle du GIEC, les experts, c'est de dire, les solutions sont là, c'est à vous, les décideurs, à mettre vos culottes.
Alain Bogdourados, qui était avec nous tantôt, dit la même chose. Il dit, les solutions, on les connaît. Le problème, c'est que les gouvernements ne veulent pas les appliquer. Je comprends le geste individuel, mais les décideurs qui nous présentent des cibles, puis des plans, puis des objectifs à atteindre, dans les faits, ça n'arrive pas.
Mais moi, Paul, j'ai une proposition.
Laquelle?
Je veux dire à la population qui nous écoute en ce moment. Si vous voulez vraiment que ça change, élisez-moi. Je vous ai dit ce que je vais faire. Je vais tarifer le stationnement, je vais mettre des péages sur les autoroutes, je vais mettre des taxes sur les gros véhicules, je vais taxer le prix d'électricité va augmenter du double pour les maisons d'une certaine taille. Allez-vous m'élire, vous pensez?
En tout cas, je peux garantir une chose. il va le faire.
Il va le faire, je ne serai jamais élu. Mais ça, je veux dire.
Mais il va le faire. Suis... Si... Non, non, mais ce que tu avais dit sur le plateau, monsieur.
Ben oui, mais.
Ils vont faire regarde, ça, ça, ça. Il l'a fait.
Mais le CRE a dit qu'il faut augmenter les taxes sur le stationnement.
Ouais.
La messagerie ici, les lignes ont pété, là.
Quand on a parlé de ça?
Ben oui.
Mais c'est sûr.
Donc, ça se fera pas.
Merci à tous les deux. On vous retrouve demain.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.